Et on s'en va à Maria, où se trouve notre chroniqueuse livre, Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Comment ça va, Maria?
Ben ça va mieux. On a vraiment eu deux méchantes tempêtes qui convergeaient en même temps avec des très hautes marées. Alors, il y a eu beaucoup de dégâts, puis des gens qui ont été évacués, puis là, on répare.
Ah oui, j'ai pensé à vous en particulier, là, quand j'ai entendu Maria à la radio, le maire qui avait déclaré l'état d'urgence samedi dernier, Mais là, les choses se calment.
En fait, il y a eu l'état d'urgence deux fois, le mercredi, puis le samedi suivant. Et... Mais c'est ça, ça a été très bouleversant pour les gens qui habitent près de la mer. Moi, je suis quand même en retrait, je suis à l'abri, mais c'est très rare que Maria fait des manchettes. Il fallait que ce soit vraiment une grosse tempête.
Oui, ou une chronique d'Anne-Marie Aubin.
Ah, voilà, c'est ça.
Alors aujourd'hui, vous nous présentez deux romans pour les adolescents et les adolescentes.
Je dirais deux romans qui nous sortent de la ville, parce qu'habituellement, les romans ados, ça se passe à l'école, dans la ville. Et bien ici, on sort un petit peu avec d'abord Les Ricochets de Christine Bertrand, qui est une autrice que je ne connaissais pas, qui habite à Lanaudière et qui a déjà publié quelques livres quand même, et puis qui s'intéresse beaucoup aux amitiés adolescentes, c'est ce que j'ai compris. Dans ce livre-là, ce qui est particulier, c'est que ça se passe à la campagne. C'est l'histoire d'un adolescent, Jacob, qui vit seul avec sa mère. Elle a l'air monoparentale. Il n'est jamais question du père. Et puis là, c'est la fin du monde pour lui parce que là, sa mère tombe en amour avec un homme qui habite en campagne quelque part. Et là, elle va décider avec lui d'aller vivre chez son ami Julien, son amoureux. Mais pour lui, c'est un gros changement. Alors, je la cite, « Tomber en amour, c'est une chose. Obliger son fils de 15 ans à aller vivre dans un trou loin de toute civilisation, ça en est une autre. »
Dans un trou?
Dans un trou, c'est ce qu'il dit. Ma vie est bousillée. Alors, pour les gens de Montréal, dès qu'on sort de l'île, hein, on est en campagne, on est loin. Puis je me souviens, quand j'habitais en Montérégie, je me faisais dire que j'habitais en région par les gens de Montréal. Je peux vous dire que maintenant que je suis en Gaspésie, je sais c'est quoi la région.
Oui. Est-ce que cette campagne est nommée dans le roman?
Jamais, mais c'est l'effet de la pandémie, je pense, où il y a beaucoup de gens qui ont quitté la ville et qui sont allés en campagne, sont mis à élever des poules. C'est ce que sa mère vit avec Julien. Mais lui, il subit ça vraiment comme une rupture avec ses amis et sa blonde, Tamara, qui est à Montréal. Puis il va chercher par tous les moyens à retourner à Montréal en cachette de sa mère. Alors, il va trouver quelqu'un qui l'amène. Là, il va prendre le métro. Puis il va aller chez sa blonde qui répond plus à ses textos, puis il n'y a plus de réponse d'aucun de ses amis. Alors là, il dit, et je cite, « Tamara ouvre la porte un peu plus en regardant plutôt par terre. Je comprends vraiment pas, jusqu'à ce que mon meilleur chum apparaisse et se colle contre elle en la prenant par l'épaule. »
Trahison, tristesse.
« Tiens, t'es là, Matt, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? » Et là, un déclic se fait tranquillement dans ma tête, mais je veux juste pas y croire. Alors là, c'est la déception, la peine d'amour, et ça, c'est ce qui clôt la première partie qui s'appelle, comment qu'il appelle ça, la fin du monde. Oui, c'est ça.
Ouais.
Puis là, il va s'enterrer dans sa chambre, il défait pas ses boîtes, il reste sous sa couette, il fait le drame qu'on vit quand on a une peine d'amour. Puis peu à peu, lui, dans la première partie, il a quand même rencontré quelques personnes, puis il va retourner vers ces gens-là, de la campagne qui sont très différents. Il y en a un, par exemple, qui travaille avec son père en agriculture. Il s'appelle Cowboy, on l'appelle comme ça. Puis il aime beaucoup travailler dans les moteurs. Il y a Emma, dont la mère est décédée, qui vit avec son père, qui travaille dans une station-service, qui est très près de sa grand-mère. Puis il y en a d'autres qui, autour, gravitent. Et dans la plus grande simplicité, ils vont accueillir ce garçon-là qui vient de la ville. Ils vont lui poser des questions. Puis lui, il est en choc culturel parce que la vie à la campagne, elle est très, très, très différente de ce qu'on peut vivre en ville de par la nature qui les entoure, les travaux qui vont avec ça. Puis, bien sûr, l'autrice met ça peut-être un petit peu d'une façon idéalisée, mais quand même, il y a les problèmes, parce que quand tu vas à Montréal, tu vas s'informer à quelle heure l'autobus, on dit, ça fait des années qu'il n'y a plus d'autobus qui va à Montréal, pour toi, t'as peine si on peut garder notre école. Puis c'est un autre problème aussi. Les gens ferment les écoles parce qu'il n'y a pas assez d'enfants. Alors là, il s'aperçoit qu'il n'y a pas juste à prendre le métro pour aller voir ses amis, c'est plus compliqué. Puis, tout est raconté par lui. Et la dernière partie, ça s'appelle 3, parce que là, finalement, c'est comme une petite finalité après cet été déterminant dans sa vie où toutes ses valeurs vont être bousculées, qu'il va vivre toutes sortes d'émotions. Ben là, il va finalement faire un trio avec ses trois amis-là, c'est-à-dire Emma, lui et Cowboy. Et puis, ben, il va réapprendre à s'accepter, à s'aimer, à se donner confiance, puis il va aller à l'école, là-bas, avec ces gens-là. Et puis, bien sûr, on voit venir la fin, on comprend très bien, mais ce qui est bien dans ce livre-là, c'est justement c'est de sortir de Montréal, de montrer les problématiques rurales et des personnages qui sont, je dirais, terre à terre. Alors, avec des valeurs, je dirais, très intéressantes. Par exemple, il va rencontrer Emma, puis il va lui dire, « Toi, c'est quel genre de gars qui t'attire? » Elle dit, « Les personnes qui m'attirent. » Parce qu'il n'y a pas juste des gars, tu sais, j'ai déjà été amoureuse aussi. Je manque de m'étouffer. Je ne m'attendais vraiment pas à cette réponse. Ben, je ne suis pas sûre de comprendre. C'est simple pourtant. Moi, c'est la personne qui m'intéresse, peu importe son sexe. Les gens que j'aime, c'est ceux qui ont le cœur à la bonne place, qui sont respectueux, sensibles, vrais, francs, et avec qui on peut discuter. Pour ce qui est de l'attirance, je dirais que c'est une question de chimie entre les corps.
Emma est alors, queer.
Elle est ouverte. Hein? Bon.
Et est-ce qu'il va avoir un petit quelque chose, un émoi envers elle, de la part de Jacob?
Oui, oui, tout à fait. C'est ce qu'on s'en venait. Effectivement, ça se termine comme ça.
Tamara va prendre le bord.
Oui, oui. Et c'est aussi bien comme ça. Alors donc, un très beau roman adolescent sur aussi la difficulté de vivre avec le nouveau conjoint de sa mère. Alors donc, avec leur projet, eux, qui sont comme des tourtereaux, puis lui qui est en peine d'amour, pas évident, là. Puis, il y a l'adolescence là-dedans aussi. Tu sais, il a 15 ans et il y a tous les problèmes qui viennent avec. Donc, un bon roman que j'ai quand même bien aimé et j'aurais aimé peut-être développer davantage les personnages, mais bon, il y aura peut-être une suite.
Même si c'est un peu convenu,
ouais,
vous avez apprécié.
C'est quand même bien pour beaucoup de jeunes qui vivent cette vie nouvelle avec un nouveau conjoint dans la famille.
Ah oui. Ou si une peine d'amour quand on est adolescent, oui. Là, on pense justement que c'est la fin du monde, comme le titre d'un des chapitres.
Ça. Oui.
Alors, Les Ricochets aux éditions Le Méac, et autre livre cette fois-ci, elle écrit aussi pour les adultes, Linda Amio.
Oui, et puis Le Voyage à l'envers, qui est un petit roman de 99 pages, parle justement d'un sujet qu'elle a déjà abordé dans le passé, dans un roman pour adultes, c'est-à-dire le Vietnam. Oui. Elle a adopté un enfant au Vietnam dans la vie, Linda Amio, ça c'est dans sa vraie vie, et elle avait écrit A longue, H-A-L-O-N-G. Donc, c'est un sujet qui l'intéresse. Et dans ce livre-là, elle va nous amener au Vietnam avec un enfant qui a été adopté. Alors, l'héroïne, qui s'appelle Laura, a 16 ans, et elle aussi va nous amener ailleurs parce que sa mère a décidé que là, il allait faire un voyage au Vietnam. Ça fait 5 ans que son père, André, est décédé, le père de Laura. Et puis, lui, ce qui est arrivé, c'est qu'il est allé jouer au tennis un jour où il faisait très chaud avec un joueur beaucoup plus jeune que lui. Et puis, il a fait comme une crise de cœur. En tout cas, et elle, Laura, elle n'acceptait pas ça. Elle était jeune quand c'est arrivé, elle avait 11 ans. Et puis là, elle est un peu en colère d'avoir perdu son père d'une façon aussi bête. Et puis, sa mère, elle, pour se consoler, elle porte souvent le gilet de son mari, un de ceux qu'elle n'a pas donné, justement, après qu'il est décédé. Alors, elle dit, ce projet de retourner là-bas, c'était le leur, pas le mien. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pas du tout même. Peut-être que si papa était là, ce serait différent. Non, il ne sera pas du voyage, même si maman porte son chandail tout le temps du séjour, comme ce matin. Donc, sa mère a dit, je vais amener papa avec moi en portant le gilet. Puis elle n'a pas envie de vivre ça. Pour elle, elle est née au Québec, elle parle français. Puis ses parents, c'est ceux-là, elle ne veut pas aller voir là-bas. Mais c'est un projet que ses parents avaient fait d'aller faire un retour là-bas, comme un pèlerinage. Puis elle avait 7 mois quand ils l'ont adoptée. Fait que là, aucun souvenir de ça. Mais pour pas déplaire à sa mère, elle va finir par y aller. Puis là aussi, le roman est divisé en 3 parties. La première partie, c'est ici. C'est une petite partie qui raconte les préparatifs. Puis on voit bien l'ambivalence de Laura, mais qui veut pas déplaire à sa mère. Alors elle y va, à contre-cœur, laissant son amoureux, Adrien, à Montréal, qui l'encourage à y aller. Et la plus grande partie, c'est le deuxième chapitre qui s'appelle « Là-bas ». Ben là, c'est le voyage, le choc culturel, le deuil. Parce que veut pas, en revisitant ces lieux-là, la mère vit un deuil et force sa fille à vivre le deuil de ce père-là. Et c'est pas facile parce que, bon, c'est une adolescente avec sa mère, une relation parfois difficile, et elle va même l'amener à l'hôtel où, avec le bébé, ils sont allés dormir la première nuit, puis ils sont restés là. Elle est devant l'hôtel, sa mère en larmes. Et Lara va dire, j'ai du mal à respirer, les mains moites, les pieds collés au plancher jusqu'à ce qu'un homme d'une trentaine d'années sorte de l'ascenseur pour se diriger vers nous. Son nom gravé sur une épinglette piquée au col de son veston, Tran Van Bao, avec une politesse exquise dans un anglais impeccable, et nous invite à le suivre. Maman lui emboîte le pas aussitôt. Moi, je reste immobile, mes os tremblent dans tout mon corps, je ne veux pas être ici, je ne veux pas voir cette chambre, et pourtant j'avance, enfin vers ma mère, et cet homme si beau qui m'observe discrètement. Et après la visite, il va dire, « Now, you know where you come from. Welcome home. » Mais elle a dit, « Non, j'ai aucun souvenir d'ici. Ma vie n'est pas ici. Ma vie est au Québec. Ma langue, c'est le français. Ma famille, c'est pas ici. » Alors ça fait brasser beaucoup d'émotions. Puis après, sa mère l'amène à l'orphelinat où ils ont été chercher Laura alors qu'elle était bébé. Puis elle veut pas, elle résiste encore. Bref, elle est fâchée. Puis elle va dire à sa mère, « C'est pas un voyage qu'on fait, c'est un pèlerinage. Puis c'est pas avec moi que tu es, c'est avec papa en pensée. » Alors, effectivement, dans ce bout de voyage, on a parfois l'impression que c'est un peu comme un guide touristique qu'on lit parce qu'elle dit, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et le choc des deux filles, tu sais, mère-fille, va finir par faire en sorte qu'elles vont décider que là, elles s'en vont ailleurs. Et là, c'est la troisième partie, n'importe où, qui est le retour à Montréal. Donc, juste après cette crise de l'orphelinat, ils vont aller vers des lieux que ni l'une ni l'autre ne connaissent. Et là, ils vont se faire plaisir. Là, ils vont faire un vrai voyage, heureusement. Et donc, quand elle revient au Québec, elle est, je dirais, positive. Elle a compris des choses. Elle a fait un bout de chemin. Puis elle aussi, la mère, dans le deuil de ce père qui n'est plus là. Puis tout ce qui peut rappeler là-bas, les odeurs, les lieux, c'est vraiment puissant, le souvenir, parfois. Alors, donc, on suit les réflexions de Laura au fil des jours, comme si elle écrivait son journal, mais aussi quand elle envoie des longs courriels à Adrien, son amoureux. Et puis, à travers ce deuil-là, ben on apprend comment finalement les émotions nous jettent à terre. On veut pas, on est dans le déni, mais qu'on doit y faire face. Et c'est le titre du livre qui s'appelle Le voyage à l'envers, c'est-à-dire qu'elle fait un retour dans le passé. Puis la mère aussi va comprendre là-dedans que tu peux pas refaire le passé. Il y a des choses de l'époque, il y a 16 ans, quand ils sont allés la chercher, qui n'existent plus. Il y a des choses qui ont changé. Et puis ben ça fait partie des thématiques chères à Linda Amiot, c'est-à-dire le voyage, le deuil, les relations d'adolescents, parce qu'elle a fait plusieurs romans ados. Et c'est un beau roman plein de tendresse, une belle relation mère-fille, des personnages qui sont très développés, les deux personnages féminins. On aurait peut-être aimé connaître mieux le père, qu'est-ce que la petite fille a pu faire avec lui jusqu'à temps qu'il décède, elle avait quand même 11 ans. Mais c'est pas du tout effleuré. Ça sera peut-être dans un autre livre, parce que elle fait beaucoup référence à ses autres livres dans ses romans adolescents. Il y a des gens dont il est question dans un roman qui apparaissent. Bon. Alors bref, c'est un beau roman. Moi, j'ai passé un beau moment en lisant Le voyage à l'envers. Et puis j'ai reconnu beaucoup de, comment je dirais, des thématiques chères à l'autrice. Par contre, parfois, la narration de Laura sortait de l'adolescence et était presque adulte. Là. Je trouvais qu'elle avait des réflexions...
un peu trop mature.
Ben, c'est ça, on sent que c'est l'auteur, parfois,
ouais.
L'autrice qui parle. Mais bon, mais ceci dit, c'est dépaysant, c'est intéressant parce qu'on est au Vietnam. Puis, comme je disais, la plupart des romans d'ados au Québec se déroulent à Montréal, à l'école, avec des problèmes d'amour puis de parents. Mais là, ici, on est vraiment en exil. Ils vont là pendant le congé entre Noël et la rentrée. Donc, en janvier, l'hiver ici, là-bas, complètement dépaysé. Et puis le retour, ben, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Elle a forcé le deuil, en quelque sorte, la mère, par ce pèlerinage-là. Puis d'ailleurs, quand elle va au cimetière, là, la petite a dit, « Moi, je ne veux pas y aller, je ne veux pas voir le nom de mon père gravé sur cette pierre-là. » Elle est dans le déni de la mort. Puis elle raconte à ses amis que depuis des années, qui est parti en voyage d'affaires. elle veut pas dire mon père est mort. C'est drôle.
Ça fait trop mal.
Ouais, c'est ça. Alors, un très beau livre pour peut-être calmer le deuil. Puis se dépayser.
Oui, faire un voyage au Vietnam. Et vous dites que Linda Amiot fait souvent des références à ses œuvres antérieures. Est-ce que ça peut larguer certains lecteurs, lectrices?
Non, au contraire, parce que c'est juste des petites allusions. Là, il y a des personnages qui reviennent. Non, c'est intéressant, parce qu'on comprend mieux qui est son amoureux, parce qu'Adrien, on l'a connu dans un autre livre.
Mais si on ne l'a pas connu, justement?
Non,
OK. Alors, Le voyage à l'envers aux éditions Le Méac aussi, par Linda Amiot. Deux romans, si je vous ai bien suivi, qui commencent mal et qui finissent bien.
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup, Anne-Marie. À la semaine prochaine.
Merci. Au revoir.